Bonjour, frères et sœurs. Donc, nous chantons régulièrement les louanges de Jésus. Peut-être que vous les chantez même pendant la semaine. Les chrétiens évangéliques sont reconnus pour cela, hein, pour chanter les louanges du Seigneur. Mais ça peut arriver que même si on se rappelle souvent qui est Jésus, qu'un chrétien connaisse le doute à propos de Jésus. Le doute peut s'installer particulièrement au moment où on vit une difficulté, une épreuve. On se rappelle que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il est élevé au ciel, mais il n'est pas ici en chair. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le voir de nos yeux. Donc, le doute peut s'installer. Et une question que même l'ennemi peut nous mettre à l'esprit, c'est est-ce que Jésus nous a abandonnés? Est-ce qu'il nous a oubliés? Ça fait 2000 ans qu'il est monté au ciel. Ben, environ. Mais l'Évangile de Jean veut nous rassurer sur ce point-là. Il ne nous a pas abandonnés. Et les disciples de Jésus avaient besoin d'être assurés. Dans le récit, au point où on est rendu dans l'Évangile de Jean, Jésus est seul avec ses disciples. Il a donné ses derniers enseignements à la foule. Et c'est peu de temps avant la Pâque, un peu de temps avant qu'il meure. Il leur communique ses dernières volontés, par des actions, mais aussi par des messages, avant d'être mis à mort. Et si on se place dans les souliers des disciples, dans leur position, ça pouvait être troublant, là. Le maître qu'ils ont suivi pendant plus de 3 ans leur dit qu'il s'en va. On peut comprendre un peu l'angoisse, le trouble qui pouvait les saisir. On a vu la semaine passée au chapitre 13 qu'il leur a donné un exemple à suivre. Il leur a lavé les pieds, donc un geste d'une grande humilité où il est à genoux aux pieds de chacun de ses disciples pour laver leurs pieds. Une démonstration de son humilité, une démonstration de son amour, de sa compassion, du souci qu'il a pour le bien de ses disciples. Mais il leur dit, faites ceci, faites comme moi par la suite. Donc, vous voyez ce que j'ai fait pour vous, comment je vous ai servi. Ensuite, je veux que vous faites comme moi. Et il ajoute même, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, en mémoire de la manière dont je vous ai aimé, je vous prescris maintenant de vous aimer les uns les autres. Donc, tout ça, c'est excellent. Mais ce qui est sous-entendu dans tout cela, c'est qu'il s'en va. Il leur donne sa volonté pour après son départ. Ils veulent que les chrétiens fassent comme lui, qu'ils s'aiment les uns les autres. Donc, ça pouvait être troublant pour les disciples. En plus, qu'il ajoute des révélations qui sont troublantes. Alors même qu'il vient de leur dire ces mots, il leur annonce que l'un d'eux va le trahir. Et va le livrer aux autorités qui veulent sa mort. Mais il ajoute quand même que cette trahison fait partie du plan de Dieu et sert à la gloire de Dieu, à glorifier Dieu. Mais quand même, les disciples sont surpris, sont en questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus ajoute qu'il va partir bientôt pour un endroit où ils ne pourront pas le suivre. Il ne sera plus avec eux. Bien sûr, on sait qu'il parle de sa mort, de sa résurrection et de son élévation dans la gloire, mais à ce moment-là, les disciples ne comprennent pas. C'est encore mystérieux pour eux. S'ils comprennent du message, c'est que Jésus doit partir, ils ne pourront pas être avec lui. Non, c'est encore une parole qui les trouble. Une autre triste nouvelle, c'est qu'il annonce à Pierre qu'il va le renier. Donc, dans la nuit même où il va être arrêté, il dit avant que le coq chante, tu vas me renier. Et Pierre se faisait un peu souvent le porte-parole de ses frères, puis il prétend, je suis prêt à donner ma vie pour toi, Seigneur Jésus, je vais te suivre jusqu'à la mort. Et ses frères devaient penser la même chose, mais pourtant Jésus annonce, non, tu vas me renier. Et on sait que les autres disciples vont aussi fuir comme lui. Donc, des paroles troublantes que Jésus leur annonce. Mais dans cette situation-là, dans cette situation précise, le texte spécifie que Jésus est troublé. Il est troublé, mais il sait qu'eux sont troublés, et il fait passer les intérêts de ses disciples avant les siens. C'est touchant. Il sent le besoin de les réconforter. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le début du chapitre 14, dans Jean 14. On va étudier juste les 14 premiers versets. Donc, je l'invite à lire avec moi Jean 14, versets 1 à 14. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, ou si vous me connaissez, deux façons de le traduire, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi, de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est un beau passage, hein? Un beau passage qui montre l'amour de Jésus, mais aussi son engagement solennel. C'est des promesses qui nous sont faites ici, qu'il a d'abord adressées à ses disciples assemblés, mais qui nous adresse encore aujourd'hui, en 2026. On a vu au chapitre 12 et au chapitre 13, si vous vous souvenez, Jésus s'est mentionné à quelques reprises qu'il est troublé. Il était un être humain comme vous et moi. Bien, pas comme vous et moi, il était sans péché, mais il a connu l'angoisse, le trouble, surtout qu'il connaissait l'avenir. Là. Il savait ce qui s'en venait, il savait les souffrances qu'il allait subir, la trahison, le rejet, un lourd fardeau qu'il a dû porter. Et on lit au chapitre 12, verset 27, qu'il a été troublé en son cœur. La semaine passée, on a vu au chapitre 13, verset 21, qu'il a été troublé en son esprit. Donc, il savait, il comprenait beaucoup mieux que ses disciples ce qui s'en venait. Parce qu'il va être trahi. Il se dirige vers la croix qui est un supplice inhumain. Et là, on pourrait s'attendre que ses disciples qui sont avec lui vont l'encourager, vont le soutenir. Mais c'est le contraire. C'est Jésus qui les encourage, qui les réconforte, qui les soutient. Et Jean était là, il se surnomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Il a senti que Jésus l'aimait. Il était témoin de ces choses-là, il nous le rapporte. Et ça a dû sûrement le toucher. Et poussé par le Saint-Esprit, il nous l'a rapporté pour qu'on trouve, nous aussi, le réconfort dans ses paroles. Et qu'on trouve l'espérance, parce que Jésus nous fait de belles promesses. Ce passage-là, c'est au cœur de la foi chrétienne. Si on dit qu'on croit en Jésus, qu'on a mis notre confiance en lui, on croit à ça. Et tout le reste qui l'entoure aussi, là, mais c'est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Si un homme ou une femme n'a pas compris ce passage-là, il n'a pas compris l'Évangile. Parce que même si Jésus est parti, on ne suit pas simplement un enseignant, un philosophe qui a existé il y a 2000 ans. On suit quelqu'un qui existe, qui vit encore, qui est Seigneur. Donc même si Jésus est parti, il ne nous a pas abandonnés. Et ici, il nous conforte par trois promesses. C'est un court passage, mais on peut voir trois promesses qu'il fait dans ce passage-là. Tout d'abord, au verset 1 à 4, même si Jésus est parti, qu'est-ce qu'il promet? Il va revenir nous chercher. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous laisse pas derrière. Si je m'en vais, il vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Plusieurs passages du Nouveau Testament qui parlent de la venue de Jésus, son apparition. On parle comme d'une venue. Mais pourquoi on parle souvent du retour de Jésus? C'est surtout basé sur ce passage-là. Jésus dit qu'il va revenir. C'est sa deuxième venue. Il revient pour nous chercher. Donc, il commence par dire que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Je pense qu'on doit comprendre la maison de son Père comme étant le ciel, qui est la demeure céleste du Père, le Créateur. Et il y a suffisamment de place pour accueillir un peuple très nombreux. Donc, on n'a pas à craindre d'être mis de côté parce qu'il n'y a plus de place. Comme Jésus a subi lui-même lors de sa naissance, il n'y avait même plus de place pour qu'il puisse venir au monde dans un hôtel. On n'a pas à craindre que dans la demeure de Dieu, on ne trouvera pas notre place. Donc, les sectes qui ont inventé le concept qu'il y aurait des places limitées auprès de Dieu, ils sont dans l'erreur. C'est un mensonge. Il y a de la place en masse. Si ce n'était pas le cas, Jésus le dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il aurait pris la peine de le dire là. Et il ne l'a pas fait. Donc, les places sont illimitées pour tous ceux qui croient, tous ceux qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Il y a une place pour eux. Et il est parti justement pour nous préparer une place, pour prendre les devants. Et ce n'est pas des paroles à la légère. D'abord, il est auprès de Dieu, il est auprès de son Père, à la droite, il est élevé à la position la plus élevée. Il a pris le contrôle, il règne. Et même si on ne peut pas le saisir souvent, ici sur cette terre, on ne peut pas le voir par nos yeux, on peut le voir par nos yeux spirituels. Mais nos frères décédés, nos frères et sœurs, nos proches qui sont décédés, qui étaient croyants, eux, tout à coup, ça devient très concret. Ils rejoignent le Seigneur dans les cieux. Et ça, c'est une grande source de consolation, de savoir que nos proches décédés, qui sont des enfants de Dieu, ont trouvé leur place auprès du Seigneur et sont enfin dans le repos, la félicité. Mais être seulement une âme sans corps, ce n'est pas l'état final. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est encore en préparation la place que Jésus est en train de préparer. Ce n'est pas la destinée éternelle. Jésus nous dit qu'il va vivre pour l'éternité avec nous, mais en chair, une chair purifiée, glorifiée, avec des corps spirituels, mais d'être seulement une âme sans corps, ce n'est pas un état final, ce n'est pas la destinée éternelle que Jésus prépare. Il promet qu'il reviendra pour nous prendre, pour que nous soyons physiquement avec lui. On puisse le toucher, le voir, de sentir, être dans sa présence, être consolé. Il va essuyer les larmes de nos yeux. Donc, on sera physiquement avec lui pour que, là où il est, nous soyons aussi, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le monde éternel qu'il nous prépare, qui n'est pas encore installé pour de bon, c'est une nouvelle terre. C'est décrit dans plusieurs endroits. Ça avait été annoncé dans Ésaïe. Pierre aussi le dit dans 2 Pierre chapitre 3, « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Enfin, il n'y aura plus jamais d'injustice, plus de trahison, comme celle que Jésus a subie, ou que peut-être vous avez déjà subie. » Et l'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile, a aussi reçu une vision du Seigneur plus tard, et c'est lui qui a écrit Apocalypse. Et les derniers chapitres d'Apocalypse 21 et 22 décrivent cette nouvelle terre. Je vais vous lire les versets 1 à 4 du chapitre 21. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc, la première terre, le premier ciel avaient disparu, la mer n'était plus. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Puis on comprend quand on continue de lire que la nouvelle Jérusalem, c'est nous. C'est l'épouse de Christ, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, c'est sa promesse à Jésus. Et quand on se sent seul ou que le doute nous assaillit, rappelons-nous de cette promesse-là. Jésus ne nous a pas oubliés. Un jour, il reviendra et son attention sera portée sur chacun de nous. Même ceux qui sont décédés, dans Thessaloniciens, on lit qu'ils vont, ressusciter. Ils auront un nouveau corps. Et nous savons, d'après Corinthiens, que nous aussi, nos corps seront transformés pour monter dans les cieux et accueillir notre héros qui arrive. Pour l'éternité avec lui. Donc, la première promesse qu'il fait, c'est que même s'il est parti, il ne nous abandonne pas, il va revenir nous chercher. Il va revenir nous prendre. Deuxièmement, au verset 5 à 11, même s'il est parti, il est toujours le chemin. Lui-même, il reste le chemin. Le chemin pour aller au Père. Il dit au verset 4, bien, il avait dit au verset 4 en terminant sa promesse, où je vais, vous en savez le chemin. Et là, Thomas répond, mais on ne sait pas où tu vas. Comment est-ce qu'on pourrait savoir quel est le chemin? Mais Jésus n'a pas dit, vous connaissez bien l'endroit où je vais. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez le chemin. Et c'est vrai, il connaît ce chemin, c'est Jésus. C'est vrai qu'on est parfois curieux de connaître comment ça va être sur la nouvelle terre pour l'éternité. Comme Jonathan tantôt disait qu'il n'y aura pas de temps. Ben ça, c'est un concept qui nous échappe, là. Mais qu'il y ait du temps ou qu'il n'y ait pas de temps, on n'est pas capable de s'imaginer comment ça sera sur cette nouvelle terre, là. Et il faut dire que les détails que Dieu nous a fournis n'apaisent pas notre soif de curiosité. Mais ce qui est beaucoup plus important de savoir comment va être cette destination-là, c'est de connaître le chemin pour s'y rendre, parce qu'il y en a juste un chemin. Et même si les gens connaissaient une grande description là, de comment ce sera le paradis sur cette nouvelle terre, ça ne servirait à rien s'ils n'étaient pas assurés de pouvoir y aller. Alors, le chemin pour y aller, il est très étroit. Mais le chemin pour aller dans l'autre direction, en enfer, rejeté de ce paradis, est très large. Et normalement, tous les hommes s'engagent dans le chemin large. Donc, c'est important de connaître le vrai chemin. Il le dit d'ailleurs sans ambiguïté, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et pourtant, il est sur le point de partir. Il va laisser ses disciples sans leur maître spirituel, mais il continue de dire, et souvenez-vous-en, « Je suis le chemin. » Donc, le fait qu'il soit parti ne diminue en rien le fait qu'il est le chemin. Il est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui révèle Dieu. On pouvait connaître Dieu en partie. Quand on lit l'Ancien Testament, on apprend à connaître qui est le Créateur, l'Éternel. Mais quand Jésus est venu, wow! La révélation de Jésus surpasse toute la révélation que Dieu avait donnée par les prophètes. Et on n'a plus besoin d'autres révélations. On connaît Dieu. On connaît la vérité par Jésus. Il est la vie parce que être en lui, être avec Jésus, c'est recevoir la vie de la source même de la vie, et c'est une vie qui est éternelle, qui ne prend jamais fin. Mais le point principal ici que Jésus veut marquer dans le contexte et qu'il veut qu'on se souvienne, c'est qu'il est le chemin, le seul. Le seul chemin, il ajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Les êtres humains se sont inventés toutes sortes de religions, et parfois, c'est à la mode aujourd'hui de dire que toutes les religions sont bonnes. Qu'il faut choisir celle qui nous convient. C'est vrai que dans toutes les religions, parfois, on va trouver un principe qui est bon. Comme je disais que les bouddhistes luttent pour une marche pour la paix. On ne peut pas être contre la paix. On peut trouver des principes qui sont bons, qui sont des imitations, mais Dieu a mis dans notre cœur la notion du bien et du mal. Notre conscience nous guide et ça va influencer les religions qu'on invente. Mais de dire qu'elles sont toutes bonnes, dans le sens qu'elles vont atteindre le but qu'elles prétendent viser, c'est faux. Jésus est sans ambiguïté ici, il est radical, il est le seul chemin. Seule la foi en Christ nous conduit à la vie éternelle avec Dieu. Tous les autres chemins nous conduisent dans le précipice. Ils peuvent apporter peut-être une lueur d'espoir pendant notre vie, mais il y a un grand vide, parce que ce vide-là n'est rempli que par la foi en Christ, par Christ lui-même. C'est pour ça que Jésus ajoute que connaître Christ, c'est connaître le Père. Être en relation avec Jésus, c'est être en relation avec Dieu. Donner sa foi à Jésus, là, se joindre à lui, c'est ni plus ni moins que d'entrer dans la famille de Dieu, c'est devenir un enfant de Dieu. Et tout ça, c'est très réel. C'est pour ça que Jésus est le chemin. Donc, Jésus ajoute le connaître, c'est connaître le Père. Mais connaître le Père, connaître Dieu, c'est beaucoup. C'est pour ça que Philippe ajoute, quand Jésus dit ça, « Seigneur, fais seulement nous montrer le Père, là, puis ça va nous suffire. » Le connaître, être en relation avec lui, c'est comme immense. Pour des petites créatures comme nous sommes, si on se replace dans le contexte juif à l'époque de Jésus, là, d'être en relation avec Dieu même, le connaître, Ça semblait trop gros. Puis Philippe, je pense que c'est une demande qui est très humble. Fais seulement nous montrer Dieu, ça nous suffit. Ça me fait penser à Moïse lorsqu'il était dans le désert et qu'il a demandé à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » C'était une bonne demande, mais tout ce qu'il a pu voir, c'est comme une trace laissée par la gloire de Dieu de dos, un pâle reflet. Mais ce que Jésus est en train de dire, là, si vous me voyez, vous voyez Dieu. C'est pas juste un pâle reflet là, de la gloire par de dos. Là. Voir Jésus, contempler Jésus, c'est contempler Dieu. Quand la Bible nous répète qu'on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre, si un être voit Dieu, il va périr. Mais on peut voir Dieu en voyant Jésus et il ne nous manque rien. Il est vraiment Dieu, le Fils. Toute la plénitude de la divinité est en Christ. Donc Jésus répond à Philippe que le voir, lui, c'est voir le Père. Et encore plus même, le connaître, c'est connaître le Père. C'est connaître Dieu. Et il ajoute, pour nous en assurer, là, croyez-moi. C'est vrai ce qu'il nous dit. Maintenant, comment on peut connaître Jésus s'il n'est plus physiquement avec nous? Mais il le dit à ses apôtres, on peut le croire par les œuvres qu'il a accomplies. Et la Bible en témoigne. Toute la Bible est utile pour apprendre à connaître Jésus. L'Ancien Testament qui annonce la venue de Christ, tout ce qu'on peut apprendre sur le Messie dans l'Ancien Testament nous aide à connaître Jésus. Et tout ce que le Nouveau Testament nous révèle à propos de Jésus aussi, nous fait connaître cet être-là, ses qualités, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son amour, sa justice, son jugement, sa compassion, la vérité, tout ce qu'il apprend. Mais plus on apprend à connaître Jésus par le témoignage de ses œuvres, plus on apprend à connaître Dieu. Et le témoignage de la Bible est suffisant pour connaître Jésus, pour croire en lui. Et donc, pour connaître Dieu et être sauvé. On n'a pas besoin d'une autre révélation. Dieu nous a tout révélé dans les Écritures pour qu'on puisse le connaître et être sauvé. Bien sûr, ça va prendre l'action divine, spirituelle, pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on comprenne. Mais la révélation biblique, elle est suffisante. Pierre a dit à la Pentecôte, aux Juifs qui avaient crucifié Jésus, dans Actes 2, « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a faits au milieu de vous, par lui. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et beaucoup se sont convertis. » Sur la base de ce témoignage-là, ce jour-là, le texte nous rapporte que 3000 se sont convertis. Ils ont été sauvés. Et pourtant, Jésus n'était plus en chair et en os devant eux. Il était déjà parti. Mais croire au témoignage de Jésus est suffisant pour le connaître, connaître son plan, connaître la bonne nouvelle et être sauvé. Donc, même si Jésus est parti, il ne nous a pas abandonnés. Il promet qu'il reviendra nous prendre. Et deuxièmement, il promet qu'il est toujours le chemin, un chemin sur lequel on peut marcher avec confiance. On sait qu'il va nous mener à bon port. D'ailleurs, c'est le seul chemin. Et il y a une troisième promesse qui parfois est difficile à saisir, mais il faut se la rappeler souvent. C'est que même s'il est parti, il n'a rien perdu de sa puissance sur la terre. Même au contraire, son action est même plus puissante. Même si ça prend des yeux spirituels pour le voir, mais depuis que Jésus est monté, même Jésus dit que tous ceux qui vont croire en lui, ça nous inclut, vont faire des œuvres plus grandes encore que celles qu'il a faites pendant son ministère sur terre. Ça, c'est étonnant, puis il y a eu plusieurs explications qui ont été données, je ne sais pas à laquelle vous êtes arrivé dans vos réflexions. Certains ont prétendu que les chrétiens pourraient faire des miracles encore plus spectaculaires que ceux que Jésus a fait. Et je ne vois pas comment on pourrait faire des miracles, même si c'était possible, là, plus spectaculaires que ceux que Jésus a fait. Jésus a défié même l'ordre de la création, l'ordre naturel, les principes physiques. Il a transformé l'eau en vin. Je n'ai jamais entendu parler qu'un homme avait réussi à faire ça. Il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête, il a multiplié les pains. Donc, il a produit de la matière. Il a ramené un homme à la vie, un homme mort. Ceux qui prétendent avoir ressuscité un homme, ce sont des charlatans. C'est Jésus qui fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là que les œuvres que les disciples vont faire, les croyants seront plus grandes que les siennes? Mais il faut comprendre que les œuvres que les croyants font maintenant sont fondées sur le fait que Jésus a été élevé et qu'il est maintenant dans la gloire. Il est auprès de Dieu. Il a ouvert le chemin, donc il est auprès du Père, et son élévation a marqué le début d'une nouvelle ère. Jésus a dit plus tôt au chapitre 5, « Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Et pourtant, Jésus faisait des miracles très étonnants. Jésus parlait d'une nouvelle ère qui allait s'en venir. Et depuis qu'il est ressuscité et monté à la droite de Dieu, cette nouvelle ère a commencé. Et les œuvres qui sont accomplies sur la terre par la puissance de Jésus sont encore plus étonnantes que les miracles qu'il a fait pendant son ministère. Il disait aussi, au chapitre 5, verset 25, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Je crois que Jésus parlait que les morts spirituels partout sur la terre qui allaient vraiment entendre la voix de Jésus, la saisir, allaient revivre. C'est l'esprit qui est régénéré, c'est la nouvelle naissance, naître d'en haut. C'est ce que j'espère que chacun de vous ici a connu, d'être ramené à la vie par le Seigneur Jésus. Notre esprit reprend vie, on est reconnecté avec Dieu. De mort qu'on était, on est revenu à la vie. Et ça, ce sont des œuvres qui sont plus grandes. C'est une résurrection spirituelle que les croyants connaissent lors de leur conversion. Donc, les œuvres que Jésus a faites sur la terre, pendant son ministère, c'était comme une période de charnière entre les deux ères, mais ça appartenait encore à l'ère d'avant, à l'ancienne ère, ancien ordre. Et ces œuvres-là, les miracles, ne pouvaient pas parvenir à leur fin parce que les hommes étaient encore endurcis, aveuglés. Ça ne pouvait pas parvenir à leur fin tant que Jésus n'avait pas été ressuscité et élevé dans la gloire. Maintenant, les miracles que Jésus a faits, on les comprend. Mais les gens de son époque qui ont assisté, même la plupart, ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus les faisait. Et ce que Jésus était en train de faire, d'accomplir, même en allant jusqu'à la mort. Mais après sa résurrection et son élévation, là, ça prend un nouveau sens. Et les œuvres que les croyants font, d'apporter la bonne nouvelle aux gens du monde et le triomphe de Jésus, c'est ce qu'on annonce, hein, que Jésus a triomphé de la mort, qu'il est vivant, qu'il règne. On annonce que Christ est roi. Mais cette annonce-là, bien, produit des conversions. Bon, plus souvent, ça produit un rejet ou de l'opposition, mais il y a beaucoup de gens qui vont se convertir. Et on priait tantôt, pendant les offrandes, que nos dons puissent servir à l'avancement de l'Église de Christ. Et son Église avance. On voit des gens se convertir, renaître, devenir des enfants de Dieu, entrer dans le royaume des cieux. Donc, le royaume de Jésus s'étend sur la terre, progresse. Et ça, même le diable ne peut pas l'empêcher. Et Jésus le fait, mais par la main des croyants. Donc, les œuvres que les croyants font sont encore plus grandioses. Et le résultat en nombre de convertis, même depuis que Jésus est remonté au ciel, est beaucoup plus grand. Je ne sais pas combien de fois plus grand, même que tous ceux que Jésus a attirés à lui pendant son ministère. C'est pour ça que Jésus dit en Matthieu 11:11, « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Le plus grand des prophètes qui est venu pour préparer la venue du Messie. « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Nous sommes rendus dans une ère là où est-ce que tous ceux qui entrent dans le royaume des cieux, là, waouh, c'est un état que le monde n'a jamais connu avant. Réconcilié avec Dieu. Mais ça demeure le ministère de Jésus. Il dit, je le ferai. Les œuvres des croyants, donc, sont les œuvres de Jésus qu'il fait à travers nous. C'est lui qui bâtit son Église. Et on va voir la semaine prochaine au chapitre 14 comment c'est possible. Comment Jésus peut accomplir des œuvres en nous ou à travers nous, que nous soyons ses mains, sa bouche, alors qu'il n'est plus avec nous. Bon, vous la connaissez, la réponse, si vous êtes chrétien, c'est qu'il nous a envoyé son esprit. C'est en esprit qu'il le fait à travers nous. Et c'est dans ce contexte-là d'évangélisation du monde que Jésus déclare au verset 13 et 14, et c'est important de comprendre le contexte. Si on va relire verset chapitre 14 dans Jean, à partir du verset 12. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. À d'autres endroits, c'est écrit que tout ce qu'on demandera au nom de Jésus nous sera accordé. Mais on doit comprendre que c'est dans le contexte de l'évangélisation, des œuvres que Christ nous confie, des œuvres qui sont encore plus grandes qu'avant la résurrection de Jésus. Donc, ça ne veut pas dire que n'importe quelle demande, dans n'importe quel contexte, et Dieu va nous répondre favorablement, c'est-à-dire que la réponse sera oui. Surtout si nos demandes sont poussées par des désirs personnels ou des désirs même charnels. Ça ne veut pas dire que Jésus va accepter de nous faire gagner à l'Auto-Québec, par exemple. Ou de faire gagner le Canada aux Olympiques. Mais peut-être. Qui sait? Mais ça, Jésus ne promet pas qu'il va répondre à toute requête pour assouvir nos désirs. Et les chrétiens ont cité ce passage-là hors de son contexte pour dire que si on a suffisamment de foi, là, Jésus va nous accorder n'importe quoi qu'on pourrait demander. Dans Jacques 4, versets 3 et 4, on lit « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, les demandes pour lesquelles Jésus s'est engagé à répondre, qu'il va nous accorder, c'est celles qui sont selon sa volonté, selon son plan pour l'avancement de son royaume, l'édification de l'Église. Celles qui respectent la volonté de Dieu, qui glorifient Dieu, qui respectent sa souveraineté. Celles qui sont faites avec humilité, avec soumission à sa parole, dans la connaissance de ce que Dieu veut. C'est pour ça que le même Jean, qui a écrit le premier épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, nous dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Donc, si on prie, même collectivement, pour que Dieu nous accorde quelque chose qui est pour son plan, pour l'avancement de son royaume, il nous l'accorde. Puis on en a une preuve hein, ces jours-ci où le Seigneur Jésus nous a accordé le nouveau bâtiment, qui est contre toute attente. Les probabilités qu'on puisse l'avoir, là, c'était presque zéro. Puis on a prié pendant plusieurs années, mais même si Jésus nous a fait attendre, il nous l'a accordé. Et il va nous accorder toutes les ressources dont on a besoin aussi, financières et les ressources humaines. Puis il va le remplir, ce bâtiment-là, en plus. Il va sauver des âmes, parce qu'on va continuer de prier pour ça, mais il ne faut pas se relâcher. Mais c'est certainement des prières qui sont selon sa volonté, puisqu'il nous a donné cette mission-là lui-même, de faire des disciples. On sait que ce bâtiment-là ne sert pas à faire une salle de spectacle ou même des demeures pour qu'on aille y habiter. Si c'est consacré pour Dieu, pour l'avancement de son royaume, mais Dieu va bénir. On peut être déjà sûr même qu'il nous l'a déjà accordé. Donc, on va conclure ici. Ce n'était pas un long passage, mais ce qu'on a vu en résumé, c'est que même si Jésus est parti, et même si le diable peut semer le doute dans nos esprits, il vous a abandonné. Il est allé là, se reposer dans les cieux, là, puis il vous a oublié sur la terre. Mais c'est faux. Il nous promet de belles promesses qu'il faut se rappeler. D'abord, il va revenir nous chercher. Il va revenir nous prendre. Chacun de nous, personne ne sera laissé derrière. On peut être sûr que nous sommes tous importants à ses yeux. Nous sommes tous ses frères et ses sœurs. Mais j'espère que ça concerne chacun de vous, cette vérité-là. Assurez-vous d'être un enfant de Dieu et Jésus va revenir vous chercher. Il a aussi promis qu'il reste le chemin efficace, le chemin fiable pour aller à Dieu. Donc, apprenons à connaître Christ. Continuons de chercher à le connaître. Relisons la Bible, même si on l'a déjà lu peut-être 10 fois, 15 fois, 50 fois. Il y en a qui lisent la Bible à chaque année et qui ont plusieurs années d'expérience. Hein. Mais continuons. Continuons à lire. Plus nous connaissons Christ, plus nous marchons dans ses voies, plus nos demandes aussi qui lui sont adressées selon sa volonté, et il va nous accorder ce qu'on lui demande. Et troisièmement, il a promis qu'il va agir à travers nous avec puissance. Il est élevé dans la gloire, il a tout pouvoir, il règne. On doit s'en souvenir surtout quand on sent qu'on est faible sur la terre, on a peu de moyens. Parfois même, on frappe un obstacle, puis à nos yeux, on n'a plus de moyens. Les obstacles sont insurmontables. Mais c'est justement dans cet état où on reconnaît notre faiblesse que Jésus montre toute sa puissance et sa force. Et on peut dire comme Paul que quand on est faible, c'est là qu'on est fort. On est plus que vainqueur avec Christ. Donc, ne doutons pas de la puissance de Christ, même si nous avons d'humbles et modestes moyens. Parce qu'il contrôle l'univers qui repose dans ses mains. Et tout nous appartient déjà. Donc, gardons cette espérance-là, une espérance dans le retour de Christ, dans sa puissance, dans son amour, dans la vie éternelle qu'il nous promet, sans fléchir. 2 Corinthiens 4 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même lorsque notre homme extérieur se détruit avec l'âge, avec la maladie. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, mais les invisibles sont éternelles. » Amen.